de soleil en plein cœur de ceux qui sont dans le malheur, c'est Jésus qui revient. Une chanson pour sécher la pluie qui coule sur les joues des meurtris, c'est Jésus qui revient. Ouvre-lui la porte. Car il veut t'apporter son amour sincère et sa paix. Ouvre-lui la porte, car il veut t'apporter des plus pour les bénis.
Eh bien, bonsoir à tous. Dieu vous bénisse. Vous allez bien? Alors, on n'a pas le batteur, on n'a pas le guitariste, mais enfin, on a le pianiste ce soir. Un pianiste qui est allé faire un stage en Suisse pour se perfectionner. Vous avez remarqué? Non, parce qu'il n'a pas encore mis en pratique ce qu'il a appris là-bas. Il est en train de répéter. Gloire à Dieu, c'était très bien. On a passé une semaine magnifique. Et voilà, on est de retour. Je viens d'avoir Alain et Priscille au téléphone. Alors, ils vont bien. Ils sont... Alors, Nicolas me dit, ils sont là où tu as prêché, tu sais. Je dis, ah oui. J'ai prêché dans, je ne sais pas combien de dizaines et de dizaines de villas. Il me dit, là tout près où il y a les cultures, ah oui. Je n'ai pas voulu trop demander des conseils, des précisions, parce qu'on y serait encore, je ne me rappelle pas. Tous ces villages, ils ont des noms de, comment on appelle ça? Ils ont accouché dehors avec un billet de logement dans la poche, comme dirait Camilla. J'arrive pas à me souvenir, et puis j'essaye même pas, parce que c'est impossible. Voilà, donc je me rappelle de Zan, je me rappelle de Banfora, je me rappelle de Fada, je me rappelle de quoi encore? Pas grand-chose. Ouagadougou. C'est terrible. Bon, c'est un peu comme l'autre. Bonsoir, j'ai la mémoire qui flanche. Non, elle n'a jamais flanché, elle a toujours été comme ça. Pas grand-chose, juste ce qui m'intéresse vraiment. Quand je vais prêcher quelque part, je suis très content, mais après je m'en vais. Et si je reviens, je suis très content, mais enfin, je ne me remplis pas le crâne avec tout ça parce qu'il n'est pas assez gros. Voilà. Enfin, tout le monde va bien, ils vous saluent bien, ils sont contents. Damien aussi est content, il pose beaucoup de questions, ça se passe bien. Il est, d'après ce que Nicolas, Alain et Priscille me disent, tout va bien. Alors voilà, ce soir on va ouvrir nos Bibles et on va lire dans Luc chapitre 9, 23, une première lecture. Luc 9, 23. Jésus dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Et on va continuer dans un autre passage, c'est dans le même évangile, l'évangile de Luc, c'est au chapitre 14, au verset 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus, il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Amen. Je vais vous asseoir. Je parlais avec quelqu'un l'autre jour et je citais les paroles de Jésus. Ah, mais moi, je ne suis pas d'accord. Je dis, alors mon pauvre ami, entre toi et Jésus, j'ai vite fait le choix. Alors, comment c'est possible que tu ne sois pas d'accord avec ce que Jésus dit? Mais c'est parce qu'il n'avait pas bien compris. C'est vrai que des fois, quand on entend des paroles de Jésus comme ça, on se dit « Waouh, c'est sévère, c'est terrible, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est dur. » Beaucoup de gens pensent que Jésus est dur. Pour certains, ils ont raison, parce que Jésus répond à la dureté du cœur par la dureté du cœur. quand l'homme lui a dit, je savais que tu étais un homme dur, Jésus n'a pas dit, ah non, c'est pas gentil de penser ça de moi. Il a dit, tu savais que... Ah, voilà. Donc là, c'est un test sacré, ce que Jésus vient de dire là. Et aujourd'hui, plus encore qu'il y a 2000 ans, de grandes foules suivent Jésus. Beaucoup de monde suit Jésus. Ils le suivent parce qu'il est le sauveur, ils le suivent parce qu'il est le guérisseur, ils le suivent parce qu'il est leur protecteur, ils le suivent parce qu'il est le pourvoyeur, ils le suivent pour beaucoup de raisons. Ils suivent Jésus, Jésus donc marche devant, et comme il y a 2000 ans, eh bien, Jésus tout à coup se retourne, et ce soir il se retourne et il dit la même chose que ce qu'il a dit il y a 2000 ans, il le dit encore aujourd'hui, si quelqu'un veut venir après moi, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Il y a deux choses principales que Jésus dit là. Jésus parle de sa mort prochaine dans Luc 9, 22-23 et il dit que si vous voulez venir après moi, c'est-à-dire après Jésus-Christ, vous savez, on dit toujours, nous sommes en l'an 2012 après Jésus-Christ. Si vous voulez venir après moi, c'est-à-dire après Jésus-Christ mort, ressuscité et monté au ciel, eh bien, il y a certaines conditions. Et juste après Jésus-Christ, tout de suite après qu'il soit monté au ciel, des hommes et des femmes ont été après lui, dans le temps, n'est-ce pas ? Ils ont fait après lui des choses que lui avait faites. Il avait montré l'exemple et il a dit, ils ont dit des choses que lui-même avait dites avant, donc ils sont venus après lui, ils ont fait les mêmes choses. Et c'est ça, venir après lui. Venir après lui, c'est le suivre dans le renoncement à notre propre vie et à tout, en fait. Il fait une liste, puis après il dit, et même à sa propre vie, quand on a renoncé à sa propre vie, qu'est-ce qu'il nous reste, hein ? Pas grand-chose. Alors, si je demande ce soir à cette foule de chrétiens qui suit Jésus, et dont vous êtes ici une petite partie, si je demande, mais qui veut suivre Jésus ? Tous les chrétiens vont dire, moi, c'est sûr. Parce que sinon, on ne serait pas là déjà, vous n'écouteriez pas ce message sur Internet, vous ne seriez pas assis dans la chapelle du sanctuaire. C'est très bien, vous voulez suivre Jésus. Et si je dis, qui veut faire les œuvres qu'il a faites ? Tous les chrétiens vont dire, moi, on n'est pas venu faire les œuvres du diable, hein. On est venu pour faire, non pas non plus les œuvres de la chair, on est venu faire les œuvres de Jésus. C'est très bien. Cependant, dans la vraie vie, dans le vécu, combien font comme ils faisaient, combien pensent comme ils pensaient, combien agissent comme ils agissaient? Eh bien, très peu. Très peu, en fait. Et pourquoi ça? Eh bien, parce que le test sacré est encore valable. C'est encore valable. Souvent, quand je parle avec les chrétiens, je constate une chose réelle, vraiment, ils aiment beaucoup Jésus, ils aiment Jésus, mais ils n'aiment pas beaucoup son enseignement. Vous allez me dire, ah bon, c'est bizarre, bon, moi j'aime son enseignement. Attendez, vous allez voir. Ils trouvent que c'est dur et en quelque sorte, ils ont raison parce que Jésus est exigeant. De nos jours, encore, autant qu'il y a 2000 ans. Et personne n'a le pouvoir de venir après lui à moins d'avoir reçu avec lui l'enseignement qui va avec. Vous êtes d'accord? On ne peut pas dire, ah, j'aime Jésus, mais ah, ce qu'il dit, non, ah ben non, non, non. On dit la Bible est la parole de Dieu, d'accord, oui, c'est vrai, je crois toute la parole de Dieu, oui, mais non, ça, non. Ça, c'était pour autrefois, maintenant, c'est différent. Non, 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 là, c'est une interprétation. Non, attendez, attendez. C'est tout des excuses et c'est tout des trucs. Jésus, il se cherche des disciples, c'est-à-dire des élèves, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas en train de... Il ne veut pas des suiveurs bricoleurs, il veut des élèves, des disciples. Alors, il est patient et il attend. Il attend. Il ne force pas les choses. Qu'attend-il ? Eh bien, écoutez bien ça. Est-ce que vous savez ce que c'est un indice ? Moi, j'étais regardé dans le dictionnaire, qu'est-ce que c'est un indice ? Parce que je n'étais pas sûr. En fait, ça veut dire beaucoup de choses. Mais la principale chose que ça veut dire, un indice, ça vient du mot latin indicium, qui signifie dénonciation. Un indice, c'est quelque chose qui dénonce. Oh ! Un indice, c'est, d'après le dictionnaire, le signe apparent qu'une chose existe. Voilà, ça existe. C'est dénoncé, c'est comme ça. Ça existe, c'est un indice. Qu'est-ce que Jésus attend? Il attend un signe apparent que vous voulez bien le suivre, que vous voulez bien faire ce qu'il faisait, que vous voulez bien agir comme il agissait, que vous voulez bien penser comme il pensait. Jésus attend un signe apparent que votre désir de le suivre existe vraiment. Il ne veut pas simplement « oui, moi j'aime Jésus, je veux le suivre ». Il veut un signe apparent. Alors, il attend un indice. Jésus est un enseignant, il enseigne, c'est un maître. Il y a un très beau chant qui disait « comme Marie assise au pied du maître, j'écoute, hein, il est le maître ». C'est lui qui enseigne et les gens, nous autres, nous écoutons. Mais être enseigné ne suffit pas. La question est la suivante. Où en est votre indice d'enseignabilité? Ça, c'est important. Où en est-il? Si je demandais sur une échelle de 1 à 10, où se trouve votre indice d'enseignabilité, c'est-à-dire le signe apparent que vous voulez véritablement être enseigné. Eh bien, vous allez me répondre, et beaucoup vont me répondre, moi, il se trouve sur une échelle de 1 à 10, il se trouve à 10, parce que je suis un chrétien, parce que j'aime Jésus, et je veux absolument être enseigné, je veux comprendre toutes ces choses, je veux apprendre, il est mon maître, je veux écouter, comme un disciple écoute. C'est bien, je ne mets pas en doute votre indice d'enseignabilité est à 10 sur l'échelle de 1 à 10. Maintenant, un disciple doit être une personne enseignable. Alors, c'est quoi une personne enseignable? Vous vous rappelez, il y a quelque temps en arrière, je vous disais, la plupart des choses, la principale chose qu'on devrait faire quand quelqu'un se convertit, c'est de lui apprendre à apprendre. Beaucoup de gens ne savent pas, ils n'ont jamais appris à apprendre. C'est grave. Et là, on en revient un petit peu à ça. Qu'est-ce que c'est une personne enseignable? Eh bien, une personne enseignable, c'est une personne qui sait qu'elle ne sait pas ce qu'elle ne sait pas. C'est ça. Depuis 1968 que je me suis converti, j'ai appris plein de choses avec Jésus-Christ et dans son Église. Mais savez-vous pourquoi Dieu me donne encore et toujours des nouvelles pensées, des nouvelles choses, des nouveaux enseignements? Savez-vous pourquoi? Parce que je sais que je ne sais pas ce que je ne sais pas. J'en suis conscient. Alors, sachant que je ne sais pas ce que je ne sais pas, alors j'écoute et j'écoute sans contester. C'est ça, c'est comme ça qu'on apprend à apprendre. C'est on écoute sans contester. À l'école, si la maîtresse dit 2 plus 2, ça fait 4, on écoute sans contester. Après, on réfléchit, on se dit, mais pourquoi 2 et 2, ça fait 4? Mais après, d'abord, on écoute sans contester. C'est important. Après, vous allez faire des recherches pour savoir pourquoi ce que vous avez appris est vrai. Ou faux. Vous vous souvenez, pour les plus vieux, là, au milieu de nous, quand j'ai appris, par des bouquins qu'on m'avait recommandés, que nos pensées avaient un pouvoir, que nos paroles avaient un pouvoir, qu'il fallait visualiser les choses. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Est-ce que vous vous rappelez, c'était il y a 24-25 ans en arrière, on voulait un château à l'époque. Et alors, j'avais lu quelque part dans un bouquin que pour pouvoir obtenir ce qu'on veut, il faut le visualiser. Alors, il disait, il faut découper une photo de ce que vous voulez, vous le mettez sur votre miroir quand vous vous rasez le matin, surtout les sœurs. Hein. Quand vous vous rasez le matin, vous voyez ce que vous voulez. Par exemple, je suis une grosse personne, bien je veux maigrir, donc vous collez une photo de quelqu'un qui a la taille que vous voudriez, et tous les matins, vous voyez cette personne, on dit, ah, je vais absolument arriver. Et vous visualisez ça. Si vous voulez une belle voiture, quoi que ce soit que vous voulez, il faut le visualiser. Vous vous rappelez quand j'ai appris cette chose-là? J'ai écouté et j'ai lu sans contesté, et puis après, j'ai agi selon ma croyance. Vous vous rappelez, comme à l'époque, on cherchait un château parce que notre maison était trop petite, il y avait 12 pièces, on était les uns sur les autres. Et un peu comme maintenant, d'ailleurs, on est aussi un peu les uns sur les autres avec nos 40 pièces, mais enfin, bon, c'est parce qu'on a progressé. Hein. Donc, j'ai agi d'après ma connaissance, que je n'avais pas contestée, et j'ai découpé la photo d'un château que j'ai collé sur le pare-brise de ma voiture. Qui se rappelle de ça? Vous voyez, il y en a, hein, on se rappelle de ça. Et j'ai roulé avec cette photo longtemps, des mois et des mois et des mois. Et un jour, ben, ce château est apparu. Et maintenant, les problèmes ont disparu, parce que quand le château est apparu, ça a fait apparaître des problèmes. Des problèmes de crédit, des problèmes de... C'était impossible d'acheter ce château. Mais les problèmes ont disparu parce qu'on a continué à croire, à visualiser cette chose, à dire nous allons avoir ce château, à croire que c'était une vérité. Et puis aujourd'hui, ben, ça fait 22 ans qu'on est châtelain. Gloire à Dieu. Parce que j'avais appris que le pouvoir de nos pensées avait un pouvoir, nos paroles avaient un pouvoir, et ce qu'on visualise avait un pouvoir et attirait à nous ce que on voulait. Beaucoup ont écouté ces enseignements, beaucoup ont lu ces bouquins. Ils se vendent en masse, ces bouquins. Mais ça ne marche pas pour tous. Pourquoi ? Ce n'est pas qu'ils n'ont pas un indice d'enseignabilité qui est au top, ils ont un indice d'enseignabilité qui est à 10 sur 10, puisqu'ils mettent même du pognon pour acheter le bouquin. Par contre, ils n'ont pas la volonté de changer. Ils continuent à penser comme avant d'avoir été enseignés. Ils continuent à agir comme avant d'avoir été enseignés. Et ils achètent un autre bouquin en disant peut-être je vais mieux comprendre, ou peut-être il va y avoir un secret qui n'était pas dans le premier bouquin. Ou vous connaissez, il y a des gens qui viennent à l'église en disant je vais écouter une parole de Dieu pour moi aujourd'hui. Ils ressortent et ils vivent la même chose sans tenir compte de ce qu'ils ont entendu à l'église. Et alors ils reviennent le dimanche d'après, et tout le temps, et tout le temps, et tout le temps. Et on dirait qu'ils ne progressent pas. Ils disent « je veux apprendre », leur indice d'enseignabilité est à 10, c'est vrai, mais ils ne veulent pas changer leur façon de penser et d'agir. Alors, l'indice d'enseignabilité est à 10, mais leur volonté de changer est à 0. 0 fois 10, ça fait 0. Il faut les deux. Celui qui décide « je ferai tout ce que la Bible dit de faire », quoi que ça me coûte, même si ça me coûte ma réputation, je m'en fiche. Quoi que ce soit que la Bible dit de faire, je vais le faire. Celui-là, il est 10-10, c'est-à-dire 10 fois 10, ça fait 100. Vous voyez le test sacré de Luc 9 et le test sacré de Luc 14, c'est ça. Combien de chrétiens nous visitent, se plaignent de leur pauvre vie d'église misérable? Encore l'autre jour, j'étais chez quelqu'un et qui m'a dit « Ah ben cet après-midi, on a encore reçu un coup de téléphone, il y a un couple qui quitte l'église parce que si, parce que ça, voilà. » Combien se plaignent de leur pauvre vie d'église et nous envient, nous disent « Ah mais vraiment, votre communion fraternelle, naner, naner, naner. » Si tu veux que les choses changent, si tu veux que les choses soient différentes dans ta vie, pense autrement et fais autrement. N'attends pas que ça vienne des autres. Parce que si tu fais encore et encore les mêmes choses, tout va rester au point où ça en est. Il ne faut pas attendre que ce soit les autres, il faut que ce soit toi-même. L'enseignement de Jésus, il libère. La Bible dit que son enseignement nous libère. Comment c'est la parole exacte? Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus le mot exact, mais c'est très fort. Ma parole vous affranchira, voilà, vous libère. Oui, la parole, l'enseignement de Jésus libère, mais pas tout le monde. Pourquoi? C'est rigolo quand même ça. Tu vas devoir changer ta façon de penser si tu écoutes l'enseignement. Tu vas devoir donc changer aussi ta façon d'agir. Tu vas devoir adapter ta vie à l'enseignement de Jésus. C'est ça, renoncer à sa vie. C'est pas renoncer à son frigidaire. C'est pas renoncer à sa télé, c'est renoncer à son frigidaire et à sa télé. Et à tout, et même à ta propre vie, ça veut dire renoncer à tout. adapter ta vie à l'enseignement de Jésus-Christ. Si tu n'es pas prêt à changer quoi que ce soit, que ça te coûte, le test est fait, ton indice d'enseignabilité est à zéro. Tu ne pourras pas le suivre, tu ne pourras pas être un élève, tu ne pourras pas être un disciple. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Jésus. Quand des gens disent, nous avons le plein évangile, Jésus arrête immédiatement de les enseigner. Toujours, je me trouvais avec un enseignant de la parole de Dieu, un docteur. Et on parlait au sujet des Juifs, et il parlait au sujet de Rockefeller, disant, oh, Rockefeller, quelqu'un d'extraordinaire qui a donné tant de milliards pour aider Israël, etc., etc. Et j'y pose une question, j'y dis, est-ce que tu es au courant du livre Les Protocoles des Sages de Sion? Et il me dit, Sion, c'est Jérusalem. Sion, c'est aussi dernièrement une secte qui vient de se créer. Sion, c'est... Alors je dis, non, c'est pas ça que je te demande. Je dis, est-ce que tu connais le livre Les Protocoles des Sages de Sion? Il a fait toutes les pirouettes et des altos arrière pour éviter de répondre à cette question parce qu'il ne savait pas ce que c'était le livre des protocoles des sages de Sion et il voulait surtout pas que je m'en aperçoive. C'était ridicule. C'était ridicule. Le livre des sages, du protocole des sages de Sion, c'est une imposture qui était écrite afin de discréditer les Juifs. Mais je ne pouvais pas le je ne l'ai pas enseigné, je ne l'ai pas dit. Parce qu'il n'était pas enseignable. Vous comprenez? Il n'était pas enseignable. Si nous pensons avoir le plein évangile, si nous pensons « je sais », alors Jésus arrête immédiatement de nous enseigner. Parce que Jésus n'enseigne pas celui qui croit tout savoir, ça ne sert à rien. Parce que celui qui croit tout savoir n'est plus enseignable. Celui qui croit qu'il connaît le plein évangile, il n'est plus enseignable. C'est pourquoi Jésus exigeait, et exige toujours aujourd'hui, le renoncement, l'humilité. Notre capacité à renoncer nous permet, mes frères et sœurs, de mesurer notre indice d'enseignabilité. L'autre jour, quelqu'un me posait des questions concernant le baptême pour les morts. Donc, j'ai commencé à répondre à la première question, et soudain, alors que j'étais en train de parler... Il s'est mis à dire, « Oh, vous avez remarqué, là, depuis une semaine, ce qui fait froid. » C'est terrible, n'est-ce pas? Ça vous est jamais arrivé, des choses comme ça? Et il s'est mis à parler de toutes sortes de futilités. Alors, j'étais très poli, j'ai parlé du froid, de la pluie et du beau temps, mais j'ai arrêté de l'enseigner. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas enseignable. C'est cela que Jésus veut que nous comprenions, nous autres. C'est bien de montrer du doigt les autres qui ne sont pas enseignables, mais nous. La Bible nous dit que Jésus, il y avait un homme un jour qui voulait le suivre, mais il voulait d'abord aller enterrer son père. Indice un indice d'enseignabilité à zéro. Voilà cet homme ce qu'il avait. Il voulait bien, mais il fallait d'abord qu'il s'occupe. Vous voyez? Et si Jésus te dit aujourd'hui, écoute, il y a un séminaire de Osborne qui va durer une semaine. Alors, est-ce que tu veux y aller pour aller te faire enseigner? Qui va dire oui? Tout le monde. On veut tous aller écouter le frère Osborne. Mais si je te dis que c'est en Oklahoma, qu'il faut prendre l'avion et que c'est toi qui dois le payer, déjà, ton indice d'enseignabilité tombe. Hein? Et puis ensuite, si je te dis qu'en plus, il y a l'hôtel, etc., et que ça va pas être loin de 3000 euros, alors là, ton indice d'enseignabilité va sans doute vraiment tomber jusqu'à zéro. Et si je te dis que pour suivre l'enseignement de Jésus, il va falloir que tu renonces à certaines soirées télé, ou que tu vas dire, oh là là, mais je savais pas que c'était si dur, alors de suivre Jésus, n'est-ce pas? Ça fait rigoler, là, on rigole ce soir, mais, vous savez-vous que depuis que la télé existe, les gens vont moins à l'église le soir? C'est vrai, c'est absolument vrai. Alors, qu'est-ce que vous êtes prêt à abandonner? Quelle est votre volonté d'apprendre? Voilà pourquoi tous les chrétiens ne sont pas des maîtres. Hein? On a lu l'autre jour, j'ai prêché là-dessus, l'apôtre Paul dit, ben, depuis le temps, vous devriez être des maîtres. Et vous en êtes encore au béaba. Parce qu'ils avaient peut-être un taux d'enseignabilité formidable, mais ils n'avaient pas le désir de changer les choses. En eux-mêmes, ils voulaient que les autres changent, mais pas eux. Et parce que leur volonté d'accepter le changement est très bas, ben voilà, y a plus de, ils peuvent plus être enseignés, c'est pas possible. Maintenant, il faut savoir une bonne nouvelle quand même, c'est que notre indice d'enseignabilité, il est variable aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on peut aussi se prendre en main et puis dire, hey, oh, là, maintenant ça suffit, je vais être enseigné, même quoi que ce soit que ça me coûte, quoi que ce soit que Jésus demande, quoi que ce soit, je le fais maintenant. Maintenant, il y a des gens qui ont déjà renoncé à beaucoup de choses pour suivre Jésus, et Jésus les a beaucoup enseignés, et depuis quelque temps, il leur semble que le ciel est de plomb et qu'il n'y a plus rien. Jésus leur dit plus rien, il n'y a plus de révélation, il n'y a plus rien. Ben, c'est très simple à comprendre, ça aussi. Notre indice d'enseignabilité, il est variable. Écoutez bien ça. Tu as renoncé à beaucoup de choses pour être enseigné, et tu as reçu l'enseignement, tu es comme une éponge, tu as tout pompé, tu es plein, tu es comme une éponge pleine, et tu as tout pris ce que tu pouvais prendre, maintenant il n'y a plus de place pour autre chose. Alors tu vas me dire, mais comment je fais ? Jésus veut que tu saches qu'être plein d'informations sacrées, qu'on ne pratique pas, ça fait baisser l'indice d'enseignabilité. C'est pourquoi il dit, la connaissance augmente. Mais l'amour se refroidit. Il faut toujours ces deux-là. Il faut toujours ces deux-là. Jésus attend et il attend que tu vives ce qui t'a été enseigné. Il attend que tu vives ce qui t'a été enseigné. Et après cela, il t'enseignera d'autres choses. Mais jusqu'à ce que tu vives ce qui t'a enseigné et que tu ne fais pas, tu vas stagner. Tu vas stagner. Parce que ton taux d'enseignabilité est vraiment très bas, à cause de ton manque de volonté de changer. Tu vois, dans la vie, on est disciple ou pas. Si tu es un disciple, c'est-à-dire un élève, il faut que tu saches que tu vas devenir un disciple accompli. Jésus dit, tout disciple accompli deviendra comme son maître. C'est-à-dire que tu vas devenir un maître. Tu vas être le maître de quelqu'un. Tu vas être l'enseignant de quelqu'un par tes paroles, par ton vécu, par tes écrits. Un disciple, il doit toujours être enseignable, et un maître aussi doit être enseignable. Un maître, il est aussi disciple de quelqu'un, et un disciple a un maître. Vous voyez ? On n'a jamais fini d'apprendre. Alors la question ce soir, c'est est-ce que tu es heureux de ta vie de disciple ? Tu vas me dire, oui, globalement, oui, c'est bien, mais enfin bon, il y a... Alors, si tu veux qu'il y ait des choses qui changent, il faut que tu changes des choses dans ta vie. Pense autrement, agis autrement, parle autrement, et les choses vont changer. Il faut te mettre à l'écoute de Jésus, mais il ne te dira rien si ton indice d'enseignabilité n'est pas au même niveau que ta volonté d'accepter le changement que tu dois opérer dans ta vie. Pas que le changement du frère ou de la sœur. Non, non, que tu dois opérer dans ta vie. La patience, toutes ces choses. Ça ne vous dit rien ? Bien sûr, ça nous parle à tous. Et c'est là que nous avons à travailler à notre salut qui nous a été acquis, mais nous devons le travailler avec crainte et tremblement. Parce que, selon les paroles de Jésus dans Luc 9 et dans Luc 14, deux fois il répète dans le même évangile, celui qui n'est pas enseignable se disqualifie lui-même. C'est ça qui est grave. C'est pas, Jésus dit, quiconque ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Alors on dit, oui, moi j'ai renoncé à tout ce que je possédais il y a 25 ans. Ah, oui, d'accord, mais tu peux te disqualifier si tu perds ton indice d'enseignabilité. Il faut toujours le maintenir au top. Et quand tu auras accepté l'enseignement du renoncement à ta propre vie, les changements vont apparaître autour de toi. Les choses qui te semblent difficiles à supporter aujourd'hui vont te sembler rien du tout finalement, facile à supporter. Savez-vous que notre cerveau, si on ne l'enseigne pas, il est bête, comme dirait Nicolas. Il comprend mal les informations. Est-ce que vous savez pourquoi les gens, quand ils n'aiment pas venir parler au micro devant une foule, vous savez pourquoi ? Parce que le cerveau, automatiquement, quand il est en face d'un certain nombre de personnes qui a les yeux fixés sur lui, sur la personne qui est là devant, le cerveau interprète ça comme une agression. Est-ce que vous savez ça ? Ben oui. C'est prouvé, c'est mesurable même. Il éprouve ça comme une agression. Il faut lui prouver que non. Je vais être très charnel, mais vous allez comprendre. Un jour, on a demandé à Sylvie Vartan, encore elle, est-ce que vous avez encore le trac? Maintenant, vous avez 67 ans, vous avez 50 ans de carrière, est-ce que vous avez encore le trac? Elle dit oui. Et je ne comprends pas, parce que finalement, c'est stupide. Les gens sont venus, ils ont payé une fortune pour venir m'entendre, et j'ai le trac. C'est complètement idiot, ils m'aiment ces gens, pourquoi j'ai le trac? Vous voyez, elle traduit bien, même inconsciemment, ce que son cerveau lui dit, tu es agressé, en fait, toutes ces milliers de personnes qui sont dans... Le cerveau ressent ça comme une agression. Donc, il faut lui apprendre que ce n'est pas une agression. Ça, c'est un enseignement, mais il faut le recevoir, vaincre la chose. Alors, quand tu auras accepté les enseignements de Jésus, les choses qui te paraissent difficiles à supporter vont te paraître beaucoup plus simples à supporter. Je suis certain que si je demandais ce soir, est-ce que vous avez compris cela? Tous me diraient, oui, Michel, j'ai pigé. Ah, là, ça y est, j'ai pigé. Alors, je vais vous enseigner une nouvelle chose. C'est que vous ne pigerez jamais. Jamais. Jamais, jamais. Vous serez toujours en train de piger, mais vous serez jamais arrivé à piger. Vous serez en train de piger à chaque instant de chaque jour. On n'est jamais arrivé. Alors, il ne faut pas se décourager. L'enseignement de Jésus... La volonté de Jésus, ce qu'il veut, ça ne se pige pas, ça se vit au moment présent, instant après instant. Alors, je vais vous dire une chose qui est sans doute la plus importante que je vais dire ce soir. Pour un disciple de Jésus-Christ, ne t'imagine pas que tu vas être plus heureux quand tu seras marié, ne t'imagine pas que tu seras plus heureux quand tu auras des enfants, ne t'imagine pas que tu seras plus heureux quand tu auras une voiture, ne t'imagine pas que tu seras plus heureux quand tu seras guéri, ne t'imagine pas que tu seras plus heureux quand tu auras de l'argent, c'est faux. Si tu demandes à Dieu des choses ou des relations pour être plus heureux, mais tu vas aller de désillusion en désillusion, parce que tu demandes mal, tu demandes pour satisfaire tes affaires personnelles, c'est pas ça qui est bon. Ne demande rien à Dieu dans ce sens-là pour pouvoir te sentir mieux en ayant les choses que Dieu te donne. Il n'y a qu'une chose que tu dois demander à Dieu. C'est le pouvoir de se sentir bien maintenant. Et maintenant encore. Et encore maintenant. Et dans 2 heures, encore maintenant. Et demain, et encore maintenant. Mais maintenant, maintenant. Pas quand tu auras reçu la chose que tu voudrais tellement avoir pour être heureux. Tu comprends ça, mon frère, ma sœur? T'as pigé? L'apôtre Paul le disait, mais on ne comprend pas toujours ce qu'il dit. L'apôtre Paul, il faut réfléchir, il faut se laisser enseigner. C'est ça, c'est exactement ce qu'il dit quand il dit « Je me sens bien », c'est-à-dire « Je sais vivre dans la pauvreté comme dans l'abondance ». Il se sent bien dans la pauvreté comme dans l'abondance. Moi, honnêtement, je me sens mieux dans l'abondance que dans la pauvreté. Mais j'apprends. J'apprends bien en ce moment. Se sentir bien, sachant que vraiment tu marches avec Jésus, que vraiment il est devant toi, qu'il est ton modèle, que tu tiens ton niveau d'enseignabilité au top, que tu tiens aussi ta volonté d'accepter les changements au top, que tu tiens ça, que tu tiens la barre, que tu fais attention que ça ne dégringole pas, que tu fais toujours attention d'être au top sur ces deux choses. Ça, c'est porter sa croix. Porter sa croix, c'est rien d'autre que ça. Porter sa croix, c'est marcher vers votre propre mort. C'est-à-dire vers le renoncement à votre propre vie. C'est marcher vers le renoncement pour recevoir de lui exactement le changement qu'il veut, lui. Mais pas de changement s'il n'y a pas d'enseignabilité. Il n'y a pas de changement si toi, tu ne veux pas le changement. Parce que Jésus est très poli. Que Dieu te bénisse. Merci Jésus pour ces choses. Permets que nous puissions les intégrer, réécouter ce message, prendre des notes, les inscrire dans notre cœur, dans notre cerveau, et puis se mettre à les appliquer, à chercher à être content maintenant. Quoi qu'il en soit, maintenant, être content. Je te le demande dans le nom de Jésus, mon Dieu. Amen.